Je vous propose sans transition de passer tout de suite à la première session, on pourra dire, donc qui donc va suivre ce dialogue avec donc trois intervenants que je vais maintenant vous présenter sur un thème déjà thème majeur, très important, qui va véritablement ouvrir d'un point de vue thématique le colloque, exposer la Shoah. Alors, pour parler de ce thème, exposer la Shoah, nous avons trois intervenants, plus précisément deux intervenants et une discutante. Alors, je vais d'abord présenter rapidement donc les deux intervenants qui nous font l'amitié de venir parler sur ce thème, exposer la Shoah. Le premier que je vais présenter, l'ordre alphabétique, Alain Chouraqui. Donc Alain Chouraqui, que je remercie à nouveau de sa présence virtuelle, hein, mais en tout cas de sa présence à ce colloque. Donc il est Alain Chouraqui, juriste et sociologue. Il est directeur d'études émérite, pardon, directeur de recherche émérite au CNRS, président fondateur de la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation, fondateur et titulaire également donc de la chaire UNESCO Éducation et Citoyenneté à la Citoyenneté, pardon. Sciences de l'homme et convergence des mémoires. Et précisément ce thème des convergences de mémoire, probablement qu'on sera amené à y revenir dans le cadre de cette discussion. Il est également l'auteur de nombreuses publications que je ne vais pas détailler ici, simplement peut-être une, puisqu'elle a beaucoup fait parler d'elle, également parce qu'elle a reçu le prix Seligman contre le racisme, la justice et la tolérance. C'est le petit manuel de survie démocratique, sous-titré Pour résister à l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme. La deuxième personne qui va intervenir dans le cadre de cette table ronde, c'est Verle van den Delen, que je remercie également de sa présence. Donc là aussi, Alain Chouraqui depuis Aix-en-Provence, Verle depuis Anvers, ou voilà. Non. Donc, Verle van den Delen est directrice adjointe et responsable des archives et de la recherche à la caserne d'Aucines, donc de Mechelen en Belgique. Elle est docteure en histoire de l'université d'Anvers et a travaillé, elle a consacré sa thèse au retour et à la reconstruction de la vie juive donc à Anvers après la Seconde Guerre mondiale. Et elle est spécialiste de l'histoire des Juifs d'Anvers. La troisième personne que je vais présenter, elle aussi très rapidement, qui sera donc la discutante, est Annette Wieworka, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, et grande spécialiste, comme nombre d'entre vous le savent, de à la fois l'histoire de la Shoah et l'histoire de la mémoire de la Shoah, hein, depuis la publication de cet ouvrage majeur tiré de sa thèse « Déportation et génocide » en 1991. Donc, je vous propose pour cette table ronde, donc là aussi, je veillerai à être le maître des horloges, hein, donc, qui va tenir jusque vers 11h40, pourrait peut-être excéder un petit peu vers 11h45, en fonction des débats qui auront lieu, donc de vous céder la parole. Alors, dans l'ordre que vous souhaitez, peut-être si vous souhaitez, Annette, faire une première mise en contexte, et puis après les deux intervenants. Voilà, je vous remercie.
Bonjour, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Je voudrais faire quelques remarques qui permettent de faire un lien peut-être avec le débat entre Michel et Pape. D'abord, qu'est-ce qu'un musée? Je pense que le terme de musée, qui englobe tellement de choses, peut-être empêche de penser la multiplication de ces musées de la résistance, de la déportation, de mémoriaux qui sont aussi des musées à partir des années 80 et qui sont des musées qui ne sont pas fondés au départ sur des collections. Dans ces musées qu'il aurait fallu définir avant d'englober tous les musées, je ferai une distinction, ce qui permet d'introduire, entre les musées mémoriaux, puisqu'ils s'appellent en général pas musées, qui sont in situ, c'est le cas de caserne d'Aucin-Malines, c'est le cas du camp des Milles, c'est le cas, pour citer les plus récents, de Rivesaltes, c'est le cas du mémorial de Drancy, et ceux qui ne sont pas in situ, qui peuvent être, enfin, faudrait citer aussi Auschwitz-Birkenau, bien évidemment, qui sont, par exemple, le mémorial de la Shoah, qui est l'ancêtre et peut-être le point central de tous ces établissements, dont la première pierre a été posée en 1953 et qui s'appelait à l'époque Tombeau du martyr juif inconnu. Donc ça, c'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque, c'est que le sujet qui nous occupe là, qui sont les musées et les expositions, c'est la question de l'interface entre l'histoire telle qu'elle est quand même, malgré tout et malgré toute la démocratisation dont il a été question tout à l'heure, qui est quand même l'objet d'un métier qui est celui d'historien, et le public. Donc la question que je poserai, j'étais très sensible en écoutant de Michel et Pape, de ces glissements entre la recherche, le militantisme, la mobilisation, c'est-à-dire qu'est-ce que un colloque comme celui-ci où on demande à des spécialistes de parler, c'est-à-dire quel est le lien qu'on veut établir entre la recherche de la vérité avec des guillemets, mais je tiens qu'on peut établir des vérités, et le public. Alors, ça m'amène à une dernière question qui, pour moi, est très importante, qui est qu'est-ce qu'on cherche quand on représente ? Alors, je vais citer, parce que je l'ai vu hier, un film que j'ai trouvé passionnant de Yudo Radu, peu importe si l'histoire nous considère comme des barbares, et qui est l'histoire d'une réalisatrice roumaine qui veut faire un spectacle autour du pogrom d'Odessa de 1941, et qui pose en fait dans le film toutes les questions que nous nous posons. La deuxième remarque, c'est que représenter, ça implique des images. Comment on va représenter quand on n'a pas d'image? Je donne un exemple que vous allez pouvoir voir rapidement, qui est l'exposition Simone Veil. Sur la période de la déportation de Simone Veil, pas d'image. Mais je donne aussi en exemple la réflexion qui a été établie, par exemple, au Cercil à Orléans, et par exemple, quand je me suis occupé du scénario de l'exposition dans le pavillon français à Auschwitz, qui est représenter la Shoah dans un musée, qu'est-ce que ça veut dire quand on a plus d'un million de personnes qui vont disparaître 100 ans dans les chambres à gaz? Donc, quel est l'effort de pensée qu'on va faire pour montrer ce qui n'existe pas, c'est-à-dire ce moment de bascule, ces gens qui arrivent vivants et qui sont morts en une seconde? Donc, des solutions ont été trouvées, il en sera peut-être question. Voilà un petit peu les questions que j'avais envie de poser avant qu'on commence cette table ronde.
Donc, j'ai préparé un PowerPoint pour vous amener quand même là où je travaille à Malines. Donc, comme a déjà annoncé Annette Fivorquin, on est sur un lieu de mémoire à Malines. Donc, il y a plus de 25 500 personnes qui ont été déportées de la site de la caserne d'Ossan à Malines. Et donc, ces Juifs et ces Roms qui ont été déportés, dont que 5% ont survécu, on les commémore. Il y a un mémorial, il y a un musée, il y a un centre de recherche à Malines. Et donc, déjà avec la remarque de Annette sur montrer ce qui est difficile à montrer, nous, on fait déjà l'effort de montrer des portraits de tous ceux qui ont été déportés, mais aussi de montrer si on n'a pas de portrait. Donc, du coup, d'aussi montrer le vide, d'aussi montrer le fait que le but était de vraiment ne plus avoir de traces de ces personnes, de ces victimes. Donc, à la fois, on a commencé le mur de commémoration en 2012 avec moins de 20 000 portraits. Des déportés, pour le moment, on a surpassé ce chiffre, et encore en novembre dernier, on a rajouté 281 portraits des déportés sur ce mur de commémoration qui est qui a une place centrale dans le musée, en fait, qui va du troisième jusqu'au moins un. Et surtout, pour parler aux jeunes aujourd'hui, ceux qui ont tous un compte Instagram, le fait de montrer que parfois, il y a des gens qui ont été victimes d'un génocide dont il n'y a même pas un portrait, une photo qui nous reste, ça fait grande impression. Donc, on est là à l'ancienne caserne d'Ossin que vous voyez à la droite avec une photo de l'époque, une des rares photos qu'on a pu trouver. C'est l'endroit d'où ont été déportées ces personnes juives et roms d'origine de Belgique et du nord de la France. C'est dans le bâtiment historique qui est devenu des appartements dans les années 80. On a pu préserver une partie du bâtiment pour le mémorial. Et de l'autre côté, il y a le nouveau musée. Donc, à gauche, en haut, vous voyez le mémorial dans le bâtiment historique et en bas, le nouveau musée. Ce n'est devenu un mémorial, un musée, deuxième partie des années 90, donc plus tard qu'ailleurs dans le monde. Et donc, c'est un peu comme le site à Drancy où le lieu est aussi encore occupé avec des appartements. Donc, ça veut dire aussi que un tel nombre d'années après la date que ça a été ce camp de rassemblement, qu'il y a vraiment très peu qui nous reste, qui est véritablement historique, sauf les murs et les contours du bâtiment. Et donc, ce musée qui a été inauguré en 1996, ce musée avait un tel grand nombre de visiteurs, surtout des groupes scolaires, que début des années 2000, on a décidé d'agrandir l'espace. Et donc, c'est là qu'a eu l'origine de la caserne d'Ossin. La caserne d'Ossin, qui est un projet qui s'est ouvert en 2012. Et donc, à ce moment-là, dans le nom du musée, on a mis explicitement que c'est sur la Shoah et les droits humains. Et donc, du coup, on voulait analyser pas seulement le cas historique, le cas belge sur la Shoah, mais aussi analyser des phénomènes actuels comme le racisme, des phénomènes d'exclusion de groupes de la population, la discrimination en raison d'origine, de foi, conviction, couleur de peau, genre, orientation sexuelle, et donc aussi d'analyser la violence de groupe en société comme une voie possible vers les génocides. Donc on veut véritablement à ce lieu de mémoire avoir et le mémorial pour les victimes de l'époque et dans le musée faire le lien entre le passé et le présent, et aussi faire le lien entre la Shoah et des autres génocides ou des autres violations des droits humains. Donc, on veut offrir dans le musée, comme vous voyez, il y a ce mur de commémoratif. Vous voyez sur le mur à droite une partie de l'expo historique, mais vous voyez aussi sur la gauche le fait que à chaque étage du musée, on fait aussi le lien avec des autres places, des autres temps pour mener à la réflexion. Donc aussi dans les visites guidées et dans tout ce qu'on fait pour des groupes éducatifs, on essaye de parler à la fois du cas historique, mais aussi d'avoir de l'attention pour les mécanismes qui sont en marche et qui sont en cours dans ce cas historique pour donner des outils aux visiteurs, aux gens qui sont là dans le contexte d'une visite éducative, de pouvoir réfléchir et voir dans quelle mesure on peut reconnaître certains mécanismes dans d'autres cas, sans dire que l'un égale l'autre, parce que ça, ce n'est pas le but du tout, du tout. Donc, ça va un peu dans le raisonnement qu'on a eu dans le premier panel, dans la première conversation. Donc, on ouvre ce débat et on fait de l'éducation. On fait de l'éducation surtout pour les élèves du secondaire, mais on a vu aussi qu'il y avait pas mal de familles qui venaient avec des jeunes enfants, tout jeunes enfants. Donc là, on a un parcours pour des jeunes enfants en famille pour qu'ils aient le même approche, mais adaptée pour leur âge. Mais aussi pour les jeunes, on a offert des moyens de visiter le musée avec des apps, parce qu'un app, c'est quelque chose qu'ils aiment utiliser. Et donc là, on vient de lancer l'app What's New, qui introduit le cas historique avec deux points focaux, c'est la propagande et les théories de complot, et qui donne aux visiteurs, donc à ces jeunes de 16 à 18 ans, des outils, quelque chose pour mettre dans leur bouquin, pour voir s'il y a comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes qui sont en fonction lors de ce genre de choses. On a aussi des projets d'éducation vis-à-vis des groupes professionnels, et donc des groupes professionnels avec lesquels on travaille depuis longtemps, c'est la police. Donc on a un programme Holocauste, police et droits humains. On a eu des conférences Connecting Law and Memory, et là, on fait vraiment le tour du musée, on offre le cas historique, mais on offre aussi ces mécanismes, la classification, la discrimination, la déshumanisation, l'extermination, on l'offre dans le cas historique pour commencer, mais on mène à des réflexions avec les agents policiers dans l'après-midi, qui se lient avec leur vie professionnelle contemporaine aujourd'hui. Donc, et là aussi, on a fait des études. Il y a des études effectuées par l'université à Bruxelles pour voir si cela a vraiment de l'impact ou non. Et ces études ont été très positives sur ce programme. Donc, ça a été vraiment bien de savoir ça et d'entendre ça. Mais on essaye aussi de voir comment on peut travailler dans le musée avec des méthodes qui font que les visiteurs ne soient pas que choqués qui sont en choc quand ils sortent après avoir pris connaissance des faits historiques. Donc là, on travaille en fait on a été inspiré d'une façon de travailler qui a premièrement été utilisée à Kigali Genocide Memorial, the Inzovu Curve, pour que on montre aussi au parcours de l'exposition pas seulement les faits et tous les faits historiques et l'analyse historique, mais aussi des histoires des personnes qui ont réagi, qui ont fait la différence, qui ont fait que on pourrait qui ont aidé des gens. Et donc, pas seulement ceux qui étaient présidents ou responsables de la police ou de l'armée, mais aussi des personnes comme des jeunes filles qui ont aidé ou consolé quelqu'un qui était jeune qui était dans une situation tellement pénible. Donc, on veut quand même donner des outils pour que les gens se sentent renforcés dans l'idée que chacun pourrait faire quelque chose, même si ça semble petit. Et donc, pour déjà faire un faire un petit peu le pont entre exposer la Shoah et exposer l'antisémitisme. Je voudrais aussi juste vous parler de l'expo qu'on a pour le moment, l'expo temporaire qui s'appelle hashtag fake images, démasquer les dangers des stéréotypes, et qui en fait est une expo basée sur la collection Langerman qui a été montrée pour la première fois au mémorial de Caen, mais que nous avons repris et retravaillé pour montrer ces dangers des stéréotypes. Et donc, comme vous voyez, l'image de campagne déjà est très consciemment pas une image antisémite, parce qu'on est convaincu que ça n'aide pas du tout de encore montrer des images antisémites dans un contexte qui n'est pas où on peut pas donner tout le contexte, et donc l'image de campagne va être en dehors du musée, et donc du coup on a choisi cette image qui à la fois nous prévient de ne pas faire passer les images antisémites partout dans le monde, mais qui adresse aussi le monde, le public dans leur vie d'aujourd'hui, qui est une image contemporaine. Et donc, ce qu'on a aussi fait avant que les gens puissent aller voir ces stéréotypes antisémites, c'est qu'on montre toute une collage de photos de la diversité du monde juif pendant l'entre-deux-guerres. Donc, pour ne pas montrer que des images, des caricatures et des stéréotypes, on voulait que le visiteur, le public, voit d'abord l'image réelle. Et ce qui était extrêmement important pour nous aussi, c'était à nouveau d'expliquer ces mécanismes, comment cela fonctionne, les préjugés, les stéréotypes, la propagande, fake news, les théories de complot, framing. Comment est-ce que cela fonctionne? Parce que ce sont des mécanismes qui ont fonctionné pour la propagande antisémite pendant des siècles, mais qui sont encore bel et bien là dans notre monde d'aujourd'hui. Et donc, on explique ces mécanismes et on invite les visiteurs à découvrir comment fonctionnent ces mécanismes eux-mêmes. Donc, par exemple, ce que vous voyez là sur l'image rouge, c'est un exercice où les gens donnent leur avis à qui ils ferait confiance à première vue. Je vais terminer.
Voilà,
donc,
je demandais.
Et après, ils savent, ils peuvent montrer, lire ce qui est sur ces personnages et de cette façon-là, avoir plus d'infos et alors se dire, est-ce que je change d'idée là maintenant? Donc, on explique cela avec des exemples contemporains et pas des exemples uniquement sur l'antisémitisme, mais aussi sur le racisme contre les Noirs, contre les gens d'origine asiatique, les Roms, l'islamophobie, les LGBTQ+. Et il y a tout un projet participatif qui est développé autour de l'expo. Bien sûr, dans l'expo, on montre des images antisémites, mais comme à Caen, on les met à plat et en bas. Donc, on a un symbolique dans la scène. Et donc, de cette façon-là, on fait le pont entre le passé, le contemporain, et on invite vraiment le public à réfléchir et à faire connaissance des mécanismes. Et on ne leur dit pas ce qu'ils doivent penser, mais on leur invite à réfléchir et on espère de cette façon-là de contribuer à faire une différence dans le monde. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Annette, je ne sais pas ce que vous...
Je vais agir extrêmement brièvement pour dire que ce qui se passe à Malines d'Ossun, c'est effectivement la tendance actuelle. Et par exemple, bon, il n'y a pas de représentant du mémorial, je ne suis en aucun cas la représentante du mémorial, mais je connais bien toutes ces institutions, et je peux dire que, par exemple, depuis des années et des années, il y a des formations au mémorial pour les policiers et que le mémorial servait aussi, je ne sais pas ce qu'il en est à cause de la pandémie, à des séances où on mettait en présence des petits délinquants enfin de quelque chose pour les courtes peines. Voilà, donc il y a que c'est une tendance, mais je pense que Alain Chouraqui, qui est probablement en plein accord avec cette tendance, va parler, puis qu'on pourra faire le débat peut-être après les deux.
Oui, donc merci Annette de cette transition, merci aux organisateurs, merci à la personne qui m'a précédé, Madame Van Dendelen. Oui, je ne sais pas si on peut parler de tendance, on y reviendra parce que dans ce qui a été présenté sur Dossin, il y a des points communs, il y a des points de différence qui sont forts. Alors, qu'est-ce qui nourrit la tendance? Qu'est-ce qui, au contraire, crée d'autres tendances ou des, comment dirais-je, ou met des bornes à la tendance qui a été évoquée? Je pense que c'est un des grands intérêts de ce colloque dont je remercie vraiment les organisateurs. Alors, c'est vrai que pour ce qui me concerne, je vais probablement croiser, je l'espère en tout cas, la plupart des questions qui ont été évoquées à la fois dans le dialogue introductif et par Annette Wieborka, la question du rapport entre recherche et musée. J'aime bien sûr la distinction qu'a faite Annette pour ce qui nous concerne, nous ne nous appelons pas musée, mais site mémorial, parce que c'est un site historique et un mémorial. Donc, le rapport entre recherche et institutions culturelles, entre deux mondes que l'on pourrait qualifier de deux mondes tentés par des tours d'ivoire. Donc, c'est très intéressant de voir quel est leur rapprochement. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous essayons de tenir toute la chaîne du savoir, depuis la production de connaissances par la recherche jusqu'à sa déclinaison sur le terrain, que ce soit dans les prisons, dans les quartiers ou dans toute une série de lieux hors les murs, mais aussi à l'intérieur de nos murs. Cette question-là, la question du lien racisme-antisémitisme qui chez nous est relativement évident par son ancrage historique, j'y reviendrai, et de façon corollaire, mais aussi distincte, la question des concurrences mémorielles ou de la convergence des mémoires, tout cela débouchant largement sur la question qui a été évoquée de différentes manières du rapport avec les publics et avec la société. Alors, je remonterai sans vouloir être trop long, je sais qu'on a déjà pris du retard, je voudrais remonter à l'ADN du site mémorial du Camp des Milles. Le site mémorial du Camp des Milles, il a ouvert en 2012. Il a vu passer entre 800 000 et 1 million de personnes depuis. C'est vrai que ça s'est arrêté depuis un an et demi pour des raisons de fermeture administrative. La moitié de ces personnes étaient des jeunes, qui en général ne font pas en général. Pour 95% d'entre eux font à la fois visite et atelier. Ce site mémorial, dès sa conception 30 ans avant 2012, c'est-à-dire à partir de 1982, dès sa conception, avait deux objectifs. Un objectif mémoriel, préserver le site, présenter l'histoire complexe à la fois du site, mais du site qui reflète largement l'histoire du régime de Vichy, du régime collaborateur, et du contexte, bien sûr, de la Shoah et de la guerre, premier objectif, et aussi objectif d'éducation à la citoyenneté. Il se trouve que l'impulsion pour la création de ce site a été donnée à la fois par d'anciens résistants et déportés, dont la plupart ont disparu, sauf deux aujourd'hui. L'un d'entre eux était mon père. Donc, ancien résistant et déporté d'un côté et acteur de la recherche de l'autre. Pour les résistants et déportés, qui n'étaient ni des résistants et déportés du camp des Milles, ni même de la région, mais qui avaient au fond, une conscience aiguë que des mécanismes, des engrenages, nous préférons le mot d'engrenage, en réalité, ça dépend des occurrences, des engrenages du type de ce qu'ils avaient vécu pouvaient à nouveau se reproduire. Alors, ils n'étaient pas chercheurs, ces résistants et déportés. Ils étaient simplement des gens qui avaient rencontré des hommes ordinaires qu'il leur a fallu combattre et qui les ont écrasés à un certain moment. Bon. Cette conviction que ce sont des hommes ordinaires et qui ont pu conduire à l'extraordinaire d'Auschwitz les a conduits depuis le début à affirmer que d'autres hommes ordinaires, les hommes ordinaires en général, pouvaient être capables du pire, mais aussi du meilleur, et nous insistons beaucoup sur les résistances, eux aussi, capables du pire en tout cas, et que ce pire, par conséquent, pouvait être une récurrence historique, et a d'ailleurs été une récurrence historique. Donc leur souci, c'était non seulement plus jamais ça, mais surtout comment faire pour que plus jamais ça. Surtout. Et c'est cette question-là qu'ils nous ont transmise, quand je dis nous, ce sont à la fois les héritiers moraux que nous représentons, les différentes associations, etc., mais aussi les chercheurs. Il se trouve que j'ai les deux casquettes, mais c'est de cela que nous avons été saisis, avec l'appui assez rapide d'Elie Wiesel, par exemple, de Serge Klarsfeld, qui est le vice-président de la Fondation, mais aussi, au bout de quelques mois d'explications assez à fond avec Simone Veil, le soutien de Simone Veil. Bon. Donc, deux aspects, vous l'avez compris, un aspect mémoriel et historique, bien sûr qu'il y a une différence mémorielle, ce sont les lieux largement et les récits, etc. Et historique, c'est bien sûr ce que la rigueur des historiens peut apporter. Nous avons, de ce point de vue-là, d'ailleurs, été soutenus sur ce premier aspect mémorial et historique par le Mémorial de la Shoah et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et puis, un aspect qui, à l'époque, en 82, 90, etc., était relativement novateur et tâtonnant, ce comment faire pour que plus jamais ça, qui nous a conduit à une approche à la fois pluridisciplinaire et intergénocidaire. J'y reviendrai dans un instant. Sur le premier aspect, je serai relativement rapide parce qu'on n'a pas le temps malheureusement, et aussi parce que ce n'est pas l'aspect qui répond le plus directement au thème du colloque sur exposer le racisme et l'antisémitisme. Mais tout de même, on ne peut pas, dans une session consacrée à exposer la Shoah, trop minorer tout de même ce qui est le socle de toute la dimension que je vais un peu plus exposer d'éducation à la citoyenneté. Et ce socle, je le répète, c'est l'histoire, et c'est, pour ce qui nous concerne, la chance d'avoir un lieu intact. 85% du bâtiment est intact. Et nous avons d'ailleurs mis très longtemps, c'est Serge Klarsfeld qui nous a fait réaliser petit à petit que nous étions en Europe peut-être l'un des deux lieux encore intacts et accessibles au public directement. Donc, nous avons pris conscience de cette, entre guillemets, chance, et bien surtout de cette responsabilité, ce qui nous a conduit à présenter au public 15 000 m² de parcours muséographique, dont à peu près 7 000 m² consacrés à une exposition permanente, plus des espaces extérieurs sur 7 ou 8 hectares qui ont permis d'ajouter des expositions temporaires, notamment en coopération avec le musée d'Auschwitz, mais aussi avec Caserne d'Ossin, j'en suis heureux, et avec le mémorial de Washington. Donc, cet aspect-là rencontre ce volet historique et mémoriel, rencontre d'une histoire qui a eu lieu de 1939 à 1942, puisque après l'invasion de la zone sud, quasiment par les Allemands, la zone sud de la France où se trouve le camp des Mille, le camp a quasiment fermé. Autrement dit, d'une certaine manière, c'est un camp institutionnellement franco-français, et c'est ce qui peut probablement expliquer les 30 ans de difficultés que nous avons eues, les difficultés morales, politiques, j'allais presque dire physique, hein. Je me souviens m'être enchaîné avec quelques anciens déportés résistants aux grilles de ce lieu pour, lorsqu'il était encore une vieille tuilerie qui fonctionnait. Donc ça n'a pas été facile, et je pense encore une fois que c'est largement parce que c'était une affaire institutionnellement et historiquement franco-française. Les Allemands qui étaient sur place, c'était des Allemands internés, d'abord par la République, puis par Vichy, et une partie d'entre eux, et d'autres de 38 nationalités, déportés lorsqu'ils étaient juifs à l'été 1942. Bon. Donc, au passage, c'est aujourd'hui important de le noter, dans l'histoire que nous présentons, l'histoire en plusieurs étapes, en trois étapes du camp des Mille, il ne faut pas négliger la première étape où c'était la République qui a ouvert le camp après avoir, en 1938, pris un décret contre les indésirables, déjà, entre guillemets. Donc, c'est la République confrontée à des défis. Qu'aurions-nous fait à leur place? Nous n'en savons rien, mais ce n'est pas le sujet sur ce point historique. Mais c'est la République qui a contribué à un état d'esprit xénophobe, crispé parfois sur le plan identitaire, qui a créé des textes, qui a créé des lieux. Et j'allais dire, Pétain et le régime autoritaire qui est arrivé ensuite, Vichy, n'a eu quelque part qu'à se baisser pour utiliser des textes qu'il a bien entendu développé, renforcé, etc. Mais des tendances étaient là, je donnais un exemple tout à l'heure avec le décret sur les indésirables, et des camps, au point que les habitants du village des Mille, près du mémorial, près du camp, pardon, les habitants du village nous ont dit qu'ils n'ont quasiment pas vu la différence. Il y avait une différence. Bien sûr que les choses se sont terriblement dégradées, que les internés couvraient un spectre beaucoup plus large d'opposants politiques, de communistes venant d'Italie, des brigades internationales, etc. Bien sûr, mais eux, de l'extérieur, c'était une continuité, je le répète, préparée par la République. C'est une leçon pour nous tous et pour aujourd'hui. Je passe, mais c'est important, surtout lorsque l'on se préoccupe d'éducation à la citoyenneté. Donc, je vous disais une présentation des lieux. Nous avons la chance aussi, dans ces lieux, d'avoir eu une bonne partie de l'intelligentsia allemande et d'Europe centrale, notamment certains fondateurs du surréalisme, Hans Bellmer, des écrivains, Max Ernst, des écrivains comme Leon Feuchtwanger, des prix Nobel comme l'inventeur de la cortisone, Otto Meyerhoff, etc. Bref, il y a là une richesse déjà historique passionnante. Mais, vous l'avez compris, pour nous, ce socle essentiel qui présente, à travers l'histoire du camp des Mille, un engrenage historique qui va de la persécution des étrangers à celui des opposants, pour faire court, hein, pour faire vraiment court et simple même, à la déportation des Juifs. Ce socle historique, encore une fois, il nous est apparu, notamment en constatant dans les années 80 la montée des mouvements qu'on n'appelait pas encore populistes, mais qui étaient tout simplement d'extrême droite, et notamment dans notre région, en Provence, où c'était en 82, ne l'oublions pas, le moment où Jean-Marie Le Pen a failli, à quelques voix près, devenir président de cette région. Bref, dans ce contexte-là, il y avait déjà une sorte d'intérêt politique et citoyen à se demander ce que l'histoire pouvait nous apprendre, et donc à se poser la question de comment faire pour que plus jamais ça. Donc, vous avez compris que la demande, en quelque sorte, était à la fois fondée sur l'intuition et l'interpellation de certains anciens, sur aussi le refus des pouvoirs publics pendant 30 ans, disons 25 ans, de prendre au sérieux nos demandes pour des raisons que j'évoquais rapidement, mais il y en a d'autres, vous vous en doutez bien, et puis aussi sur cette conscience politique que des recommencements étaient peut-être en cours, déjà dans les années 80. Alors, cela nous a conduit, évidemment, à rechercher, au-delà du travail historique le plus rigoureux possible, parce que on ne peut pas s'abriter derrière les limites de la mémoire pour être approximatif sur le terrain de la rigueur historique, se penchait sur cette question, comment faire pour que, et il nous est apparu, c'était une comment dirais-je, une hypothèse que nous avons poussée jusqu'au bout, il nous est apparu qu'il fallait tenter de faire parler, entre guillemets, d'expliciter les engrenages qui avaient conduit à la Shoah, les engrenages fondés sur des mécanismes individuels, collectifs et institutionnels. Les trois mots sont extrêmement importants pour nous, car on ne comprend pas la dynamique sociétale qui a conduit à la Shoah si on n'a pas en tête ces trois registres de l'individuel, du collectif et de l'institutionnel. Et donc, à partir de là, essayer de creuser, de travailler, ce qu'a fait un conseil scientifique très étoffé, hein, une trentaine de membres, qui a été d'ailleurs remarquable d'ouverture d'esprit, qui a travaillé avec acharnement. On se réunissait parfois une fois par semaine, hein, pendant des années et des années, pour essayer, avec cet objectif historique et citoyen, l'un n'étant pas exclusif de l'autre, bien entendu, ça va de soi, pour essayer de répondre à cette question, comment faire pour que plus jamais ça. Et en suivant cette ligne, quels sont les processus qui ont pu conduire à la Shoah. Bien sûr, la littérature sur le sujet était importante, donc c'était plus une synthèse à faire qu'autre chose, mais aussi une ouverture à la pluridisciplinarité. C'est-à-dire, oui, il y a une histoire, cette histoire nous interpelle, notamment sur le plan émotionnel, mais pas seulement. La dimension émotionnelle va s'effriter avec le temps parce que les témoins vont disparaître, parce que tout simplement le temps va passer, parce que d'autres horreurs, certes heureusement de dimension moindre, mais plus chaudes, excusez le mot, plus présentes, plus récentes, elles se présentent tous les jours à la télévision et ont tendance, auprès de ceux qui ne sont pas des spécialistes et qui ne sont pas, qui n'ont pas de raison d'être spécialement branchés sur la Shoah, qui vont risquer d'effacer la Shoah, ou en tout cas d'éloigner l'émotion de la Shoah. Un certain nombre des grands anciens que j'évoquais tout à l'heure étaient très, très peinés à l'avance de sentir que leur histoire allait quelque part un peu disparaître avec eux. Nous avons justement essayé de les convaincre que cette histoire pouvait être présentée autrement pour rester du présent à l'égard d'un certain nombre de publics. Alors, comment le faire? Eh bien, je disais deux manières. Premièrement, une approche pluridisciplinaire et deuxièmement, une approche intergénocidaire. Oui.
Est-ce que vous pouvez être peut-être conclure pour qu'on puisse après entamer une discussion avec Anna
Diverka? Ah bon, je pensais avoir un peu moins de temps que la personne qui m'a précédé. Là, j'en suis à la moitié du temps qu'elle a utilisé, mais je ne vais pas discuter, je vais résumer, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Bon, je vous disais que l'approche qui était la nôtre est une approche pluridisciplinaire, donc sociologie, psychosociologie, sciences politiques, philosophie, etc., et une approche intergénocidaire. Alors, pluridisciplinaire, on peut le comprendre, ça permet de mettre en avant non seulement des mécanismes, on l'évoquait tout à l'heure, des mécanismes individuels et collectifs, stéréotypes, passivité, effet de groupe, etc., mais aussi des mécanismes collectifs qui nous ont amenés à des outils très concrets de synthèse de ces analyses, notamment un schéma récapitulatif des grandes étapes, des trois grandes étapes qui conduisent au pire. De ce schéma, nous avons tiré un ouvrage qui lui-même a donné lieu au petit manuel de survie démocratique dont vous parliez tout à l'heure et qui se veut véritablement un outil citoyen tirant des leçons du passé pour le présent. Je fais court donc sur ce point, je passe au deuxième aspect qui est l'aspect intergénocidaire. Que veut dire intergénocidaire ? Intergénocidaire ne veut pas dire de poser à côté différents génocides sans faire de distinction. Non, l'idée était de dire, et je crois qu'il faut vraiment voir là une différence avec d'autres approches qui sont aussi, elles aussi, ouvertes sur le présent. L'idée était de dire, bon, une fois que l'on a explicité les processus individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu mener à la Shoah, est-ce que ces processus ont un caractère universel ou est-ce que ce sont des processus propres à une histoire, un contexte, l'Allemagne, etc., la crise de 1929, la petite moustache d'Hitler, etc. Bon. Ou est-ce que derrière ces apparences, entre guillemets, ou ces faits importants, mais qui sont très spécifiques, il y a des mécanismes universels. La seule manière scientifique connue, c'est soit de refaire l'expérience, soit de rapprocher avec d'autres expériences. Le rapprochement, nous l'avons fait avec les autres génocides avérés. Rwanda, pour nous en tout cas, pour le Conseil scientifique, Rwanda, Arménie, Arménien, et les crimes à caractère génocidaire, je choisis mes mots, concernant les Tziganes. L'idée étant de faire avoir une approche en termes de convergence des mémoires. Qu'est-ce qu'il y a eu de commun entre ces différents génocides? C'est l'essentiel de notre démarche. Et à notre grande surprise, nous avons vu émerger beaucoup d'éléments communs qui nous ont permis notamment de mettre en avant le schéma récapitulatif dont je parlais, mais aussi toute une série d'outils, y compris des indices quantifiés. Je déteste la quantification du qualitatif, mais c'est parfois très parlant. Et tous ces outils ont donc reposé sur le fait de faire émerger ce qu'il y avait de commun, et notamment ces trois étapes à partir d'un terreau que l'on retrouve dans chacun des génocides. C'est à partir de là que nous avons construit nos outils, vous l'avez compris, et pour donner un exemple d'utilité de ces, ou de comment dirais-je, de rapprochement possible entre le présent, je n'ai pas dit l'actualité, nous fuyons l'actualité pour privilégier le présent. La différence, c'est que le présent est dans une continuité avec le passé et l'avenir, alors que l'actualité relève des hot topics qui conduit à oublier les grilles de lecture qui sont derrière les événements précis. Je reviendrai peut-être là-dessus. C'est important pour l'éducation à la citoyenneté que nous faisons. Donc, dans nos actions d'éducation à la citoyenneté, auprès des magistrats, nous avons par exemple tous les chefs de juridiction, les procureurs qui sont venus et qui vont revenir se former une journée chez nous, des policiers, des syndicalistes, des éducateurs bien sûr, etc. Bref, toute une série d'acteurs et prisonniers, j'évoquais tout à l'heure, toutes ces personnes, nous leur présentons non seulement les grandes étapes pour qu'ils se situent aujourd'hui, mais aussi nous focalisons sur l'étape 2 dont je tiens à vous, je souhaite en quatre mots vous dire ce qu'elle comprend dans l'histoire. Étape 2 du processus qui conduit au crime de masse: perte de repères, rejet des élites, radicalisation et haine, désordre et agression, pouvoirs impuissants. Bon, on a l'impression de parler du présent. Certains, d'ailleurs, quand j'en parle, oublient rapidement que ce sont les mécanismes du passé. Nous les retrouvons et nos interlocuteurs le comprennent. Donc, ce sont de tels outils, il y en a d'autres, il y a un indice d'analyse et d'alerte républicaine et démocratique qui montre, à partir de ces critères précis et du schéma récapitulatif dont je vous parlais, qui montre très précisément, c'est un gros travail de recherche, qui nous montre qu'il y a une accentuation des risques pour la démocratie en France, multiplication par 5 depuis 1990. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler avec des collègues belges et avec l'université de Yale pour la déclinaison de cet indice aux États-Unis et en Belgique. Bref, toute une série d'éléments, et vraiment j'en termine, pour dire que nous essayons sur le terrain, aussi bien dans nos murs que hors les murs, de présenter les clés de compréhension tirées d'expériences historiques variées de les présenter de la façon la plus, évidemment, la plus pédagogique qui soit. J'ajouterai d'un mot, y compris au niveau international, puisque nous avons créé une chaire de l'UNESCO qui couvre une vingtaine de pays dont les expériences et les situations par rapport à ces étapes qui peuvent mener au crime de masse sont différentes et ça permet des échanges tout à fait importants. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été donc plus long qu'attendu.
Merci beaucoup Alain Chouraki. Annette Viorcal.
Alors, je vais me contenter de poser des questions que je me pose à moi-même. Parce que tout en ayant parlé tout à l'heure de l'autonomie de la recherche en histoire, il est bien évident que nous tous qui avons choisi ces sujets-là, nous avons aussi une implication civique. La première question que je me pose, c'est l'impact de l'éducation. Donc, je mets les musées, bon, entre guillemets, vous avez compris que je mettais des guillemets, les musées mémoriaux, dans le même sac que l'éducation nationale. C'est-à-dire que constamment maintenant, on donne la charge du monde de demain aux pédagogues. Je me pose la question de savoir si cette façon de se défausser sur l'éducation n'est pas quelque chose qui va de conserve avec le déclin du politique, et si, quand on regarde l'histoire, la question des politiques, des hommes politiques, des rivalités politiques, n'est pas quelque chose d'au moins aussi important que l'éducation. Me revient en souvenir un texte qui date de plus d'un demi-siècle, et il me semble que c'est de Pierre Nora, sur l'entrée dans la guerre de 14. Le texte montre comment l'ensemble des instits étaient pacifistes, certains le sont restés, et comment toute cette imprégnation pacifiste, à der des guerres, plus jamais ça, a volé en éclats au moment de la déclaration de guerre. Deuxième question, que je vais résumer par la formule d'Alain Chouraki. Pour consoler les résistants déportés survivants qui sont, comme chacun d'entre nous, mortels, qui ont survécu mais qui disparaissent aujourd'hui, il dit qu'il leur garantit que l'histoire reste du présent. Dans ce qu'on a entendu de ces deux intervenants, il y a cette idée de montrer que l'histoire, elle peut se reproduire. Or, l'histoire, ou l'enseignement de l'histoire, et là je vais citer Marc Bloch, c'est pas de dire que demain va ressembler à hier, c'est aussi de penser le neuf et le surprenant. Je vais donner trois exemples de neuf et de surprenant que les plus âgés, mais certains, ont vécu. L'effondrement, enfin le mur de Berlin, l'effondrement du communisme, tout le monde a été surpris. Rien dans l'histoire ne permettait de le penser. On va commémorer l'attentat contre les tours jumelles. Chacun d'entre nous, là, on est plus nombreux parce que c'est jamais qu'il y a 20 ans, se rappelle sa sidération, littéralement, et puis la pandémie, ou plutôt la gestion de la pandémie. Et nous sommes dans une période où chacun d'entre nous peut mesurer la difficulté qu'il y a d'anticiper le présent. Donc, c'est un deuxième thème de réflexion. Le troisième thème de réflexion, je ne voudrais pas jouer les Cassandres, mais le travail qui est accompli aussi bien à Malines, à la caserne d'Ossin, qu'au camp des Milles, et puis on pourrait citer d'autres choses, mes amis du Cercil d'Orléans, c'est un travail absolument remarquable. Mais je remarque, donc ça ne met pas du tout en cause leur travail, hein, mais je remarque quand même que au fur et à mesure que monte la puissance, que se multiplient ces mémoriaux, musées, sites de mémoire, qu'on rajoute dans l'enseignement le Rwanda, ben, au fur et à mesure, j'ai bien aimé quand on nous a rappelé le risque d'avoir Le Pen à la présidence d'une région. Ce risque, il paraît presque anodin, par rapport au risque d'avoir le Front National dans plus d'une région et la présidente du Rassemblement National à la présidence. Je vous souviens, je me rappelle la façon dont on a été tétanisé quand Lionel Jospin a été, n'a pas été au second tour de la présidentielle 2002. Et maintenant, nous nous sommes habitués tout à fait à penser que nous aurons un second tour de la présidentielle dans un an, où il y aura Marine Le Pen. Donc, je pense que, certes, on peut se féliciter du travail que les uns et les autres, nous avons, je ne me mets pas, hein, je ne suis pas comme dans le méchant, dans le Seyeur de Pessard, hein, je ne dis pas moi, je me mets avec tout le monde. Donc, je pense que ça aussi, ça devrait mener une réflexion. Voilà, c'est les trois questions que je veux poser aux deux intervenants ou à tout le monde et que je me pose à moi-même.
Merci beaucoup, Annette. Avant de laisser la parole à Alain Chouraki et Verle van den Delen, le temps, je vous en prie vraiment voilà, d'être très court, enfin d'être court en tout cas, autant que vous pouvez. Merci beaucoup.
Bon, et Dieu dans tout ça. Bon, donc, vous m'autorisez, Madame van den Delen, à prendre la parole? Merci, c'est gentil. Je vais prendre les trois questions et je vais être obligé d'être bref au moins sur certaines. L'impact de l'éducation qui remplacerait les politiques, etc. Annette, très bonne question. Ce que tu en as dit me va parfaitement, donc je ne vais pas prendre du temps là-dessus. Oui, on fait reposer sur l'éducation, à mon avis, non pas trop de choses, parce que au fond, elle doit faire son maximum de toutes les façons. Et on a un peu tendance, effectivement, à défausser, je crois que tu as dit le mot, les autres secteurs de la société ont parfois un peu tendance à se défausser sur l'éducation et, au sens large, et en particulier sur au sens large aussi l'éducation, la culture, les musées, tu évoquais les institutions culturelles, en plus l'éducation nationale. Donc, OK sur ce point. Deuxième question, les questions 2 et 3 sont des questions que je me pose aussi, vraiment de façon… Qui peut éviter ces deux questions que tu as posées? Je vais donc y répondre à ma manière et de façon très modeste, je dirais, au sens où vraiment il n'y a pas de… Je crois qu'il n'y a pas de vérité possible établie là-dessus. Quand je disais que l'histoire… que j'essayais de rassurer les anciens en leur disant que leur histoire resterait dans le présent, ça correspondait d'ailleurs à leur ressenti, hein, mais c'était heureux qu'on leur dise. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, quand vous souhaitez que cela ne se reproduise pas, sachez que ce que vous avez vécu, non pas bien sûr vos souffrances personnelles, tout ça n'est pas transmissible, mais les processus qui vous ont conduit dans ces souffrances vont être rapportés, maintenus, explicités au présent à ceux qui, aux jeunes générations en particulier, puisque c'était leur quasi-obsession, bref, nous allons essayer non seulement de transmettre votre histoire, mais ce que je leur disais, c'était les leçons de votre histoire, même si je n'aime pas trop, c'est une expression bien discutée et discutable, mais ils la comprenaient bien, ce sont plus les leçons de votre histoire que l'histoire elle-même que l'on maintiendra au présent, que l'on essaiera de maintenir au présent. Et c'est ce qui les rassurait, et c'est ce qui était l'essentiel pour eux. Ce n'était pas tant qu'on se rappelle de eux-mêmes à titre individuel. Le neuf et le surprenant, oui. Oui, mais on est parfois surpris par des choses qui ne devraient pas nous surprendre. Ce qui est arrivé avec Jospin, je suis désolé, oui, c'est un cataclysme. Enfin, c'est un cataclysme, ça a été ressenti.
Je n'ai pas cité ça comme surprenant. Hein, j'ai cité la chute du mur, les tours jumelles et la pandémie et la réponse à la pandémie.
Non, mais tu as parlé de sidération à propos de Jospin. Bon, donc… Oui. Voilà, donc, mais ce n'est pas pour dire que tout était prévu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que l'on peut et pouvait voir venir, que l'arrivée possible d'un régime d'extrême droite l'année prochaine en France, comme ça l'a déjà été dans d'autres pays européens, on pouvait le voir venir, bien entendu. Et pourquoi pouvait-on le voir venir? Précisément parce que des analyses politiques et sociopolitiques et sociologiques permettaient ou permettent de voir des tendances qui conduisent à. Autrement dit, oui, il y a du neuf et du surprenant. Oui, ça sera pas nécessairement une petite moustache ni une mèche blonde, mais peut-être autre chose. Oui, il y a eu la pandémie et plein de surprenants, mais en même temps, il y a des processus récurrents comme la passivité, l'effet de groupe, etc., des processus individuels ou psychosociaux et des grandes étapes qui, je le répète, qu'on a trouvées dans les grands drames de l'histoire et qui sont aussi à l'œuvre. Bien entendu. Donc, nous, c'est vrai qu'à partir du passé, nous ne pouvons, si je puis dire, qu'éclairer cette partie commune, en quelque sorte, des grands processus qui permettent à des spécificités, à des phénomènes surprenants, de prendre parfois des chemins connus. Et enfin, sur l'impact, vraie question que je me pose, je disais aussi, nous avons trois batteries d'évaluation des séminaires que nous faisons, une batterie interne, externe, avec des partenaires institutionnels, etc. Bon, ça semble, notamment sur la question de la conscience de la démocratie et des valeurs de la démocratie, ça semble être conduire à des progrès de l'ordre de 80%, moins sur racisme et antisémitisme, mais c'est probablement parce que les questions de racisme et d'antisémitisme sont plus débattues, si je puis dire, ou depuis longtemps, par les gens que nous rencontrons et que l'on évalue. Donc, il y a déjà un socle, si je puis dire, de « entre guillemets antiraciste » qui est déjà là. Donc, on est à 55% pour faire compte, ce qui est déjà pas mal en termes de progrès sur ces terrains-là. Ce qui est l'occasion pour moi, et j'en termine, de dire que… la question de distinction de racisme et antisémitisme qui a été posée au début, elle est gérée très, très simplement chez nous. À partir du moment où les grandes étapes historiques qui conduisent au pire, aux différents génocides, sont nourries par un extrémisme identitaire, mot qui est essentiel pour nous, sont nourries par des extrémismes identitaires, suivant les situations historiques, par des extrémismes identitaires qui eux-mêmes vont de pair avec racisme et ou antisémitisme. Le génocide de Rwanda, c'était plutôt un racisme. Bien sûr, pour la Shoah, c'est de l'antisémitisme, etc. Bon, on voit des points communs extrêmement forts et des distinctions très fortes. Donc, ce qui a été présenté au tout début nous va complètement. La convergence des mémoires, c'est aussi une convergence des racismes, je préfère le mettre au pluriel, et de l'antisémitisme, et c'est cette convergence, encore une fois, qui permet d'éclairer, je crois, aujourd'hui, toute une série de phénomènes, sans être du tout assuré, je suis d'accord avec Annette, que cela suffira, loin de là, à faire barrage.
Merci. Je propose qu'on laisse tout de suite la parole à Verle van den Bellen.
Oui, moi je vais être toute brève. Donc, ce que je voulais ajouter à ce qui a été déjà dit, c'est que en Flandre, il y a une tendance dans les musées de réfléchir sur ce que c'est un musée agoniste. Donc, au lieu d'avoir un consensus et de présenter un consensus, comment montrer et avoir la diversité et entrer en dialogue avec des différentes opinions sans vouloir arriver à une opinion qui est le consensus, sauf que le consensus est qu'on travaille dans le respect des valeurs des droits humains et des valeurs démocratiques. Et ça, je trouve quelque chose qui, à la fois, peut enseigner l'histoire et donner des outils pour les visiteurs, pour le public, d'affronter les choses qu'on n'entendait pas, qu'on savait pas qui allait venir, qui sont un challenge aujourd'hui ou demain. Et donc, par exemple, dans l'expo dont je vous ai parlé, on a des mécanismes qu'on explique, framing, propagande, fake news, théorie de complot, Et on donne, en faisant cela, on donne des outils vraiment très, très pratiques aux visiteurs, au public, pas pour leur dire comment penser ou quoi penser, mais des outils pour gérer ça, pour confronter ce genre de mécanisme. Et ça, je trouve que c'est des choses qui dépassent vraiment l'historique et qui nous fournit des outils pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, dans l'esprit ouvert et en allant dans le dialogue et en essayant d'avoir une place pour cet échange avec le respect pour chacun et chacune. Et donc, l'autre chose qu'on propose dans notre musée, c'est aussi de laisser la possibilité de différents parcours de visite selon les besoins des visiteurs, selon le public, selon le but envisagé de cette visite-là. Donc, avec cet outil-là, on peut à la fois entrer dans des différents sujets et faire des différents parcours dans l'expo permanente et des expos temporaires. Donc voilà, c'est la seule chose que je vais rajouter pour encore avoir le temps, peut-être pour une autre question.
Est-ce que Annette Viorca, vous souhaitez réagir ou,
Je pense que j'ai posé des questions qui devraient quand même durer plus longtemps que le colloque.
Certainement.
Les réponses aussi.
Alors, moi, j'avais juste une question qui est venue d'une personne du public. Simplement pour vous, Annette Viorca, simplement de repréciser le lien entre 2002, Le Pen et enfin, ce qui était un petit peu dit.
Simplement que la tendance que l'on voit dans ces musées, avec tous les guillemets pour musée, et ils ont expliqué nos deux collègues, c'est de voir ce qui est permanent, c'est-à-dire en gros les invariants, et en quoi aujourd'hui ressemble à hier. Et ce que je voulais dire, c'est que on a toujours tendance dans l'après-coup à dire « Ah oui, oui, on savait, on n'a pas été sidéré pour Le Pen ». Moi, effectivement, je le savais, hein, j'ai mis en garde, je le savais parce que j'avais regardé les courbes, mais on ne l'a pas su très longtemps en 2002. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une sorte de danger à aussi penser qu'aujourd'hui va ressembler à hier et que demain ressemblera à hier. Et que ce qui est très important, c'est d'essayer de penser dans l'histoire ce qui est le neuf et le surprenant. Marc Bloch fait cette réflexion, bon, à la fois dans, bien évidemment, son petit grand livre « Apologie pour le métier d'historien », mais il le fait aussi dans « L'étrange défaite », c'est-à-dire dans la sidération qui est l'effondrement de la France en 40. Or, cet effondrement d'une France qui avait gagné le match d'avant, hein, la guerre de 14, ça a été quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'il faut aussi introduire dans notre réflexion le fait qu'on ne sait pas exactement de quoi demain sera fait, même si on reconnaît, par exemple, dans certaines caricatures de Macron, ce que ne savent pas lire les jeunes d'aujourd'hui, des traits de la caricature antisémite. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien entre le passé et le présent, je dis qu'il y a cette dimension de ce qui fait irruption dans le présent et qui est important. Et pour moi, c'est moins, effectivement, le deuxième tour avec Le Pen que ce qu'aucun n'avait prévu, l'effondrement du communisme, que l'on pensait voir durer, j'ose pas dire, 1000 ans, l'effondrement du communisme, les tours jumelles qui ont quand même été, qui est une rupture dans l'histoire et qui était quand même une énorme, je suis étouffé à le dire, ça a été un choc universel. Et le troisième élément que je donnais, c'était cette pandémie qui permet de voir comment il est difficile de penser le présent et de penser l'avenir. C'est-à-dire qu'on est en démocratie, ce qui n'était pas le cas des périodes dont on parle. On est en démocratie, on a tout à sa disposition et on n'arrive pas à comprendre exactement tout ce qui se passe. Je suis historienne, c'est mon métier, j'aime ce métier avec passion, mais je pense qu'il faut intégrer dans la réflexion que l'histoire ne se répète pas exactement et qu'il y a ces éléments des éléments que personne n'avait jamais prévus. Alors merci même après, on va vous dire, on a prévu la pandémie, les écologistes, les machins, les trucs. Oui, mais ça, c'est de l'après-coup.
Merci beaucoup, Anne-Lévi-Arca. Je pense que c'est très clair. Et ça me permet de... Ça me rappelle en tout cas une exposition qui avait eu lieu au Jeu de Paume il y a quelques années maintenant sur la notion même d'événement et où était notamment évoquée la sidération du World Trade Center de 2001. Alors, je vais être malheureusement obligé de clore cette première... Première table ronde tout à fait passionnante. Je vous propose de prendre une à deux petites minutes pour souffler un petit peu et puis après enchaîner donc avec la deuxième table ronde. Comme on est en ligne, on n'a pas besoin de changer les plateaux, mais simplement pour souffler un petit peu et puis aussi pour vous permettre, en fait, pour la deuxième table ronde, de disposer de la traduction. Si vous le souhaitez, donc mes collègues du service audiovisuel de la FMSH vont pouvoir, ils l'ont déjà fait là d'ailleurs, rajouter l'option donc sur votre interface Zoom pour utiliser l'interprétation. Donc vous avez la possibilité maintenant d'avoir la traduction simultanée anglais-français dans les deux sens, puisque donc la table ronde qui va s'ouvrir dans deux petites minutes va être dans les deux langues, puisque nous avons la chance d'avoir des intervenants à la fois français, francophones et également étrangers qui parleront donc en anglais. Et nous les remercions chaleureusement. Donc juste une minute pour souffler, puis on reprend. Vous n'avez pas besoin, ne vous déconnectez pas surtout. Restez en ligne et on se retrouve dans une minute. Merci beaucoup.